franceinter.fr.
Bonjour à tous. Ils seront sans doute des milliers ce dimanche après-midi à manifester à Paris entre les places de la Nation et place de la République. Des associations antiracistes, des collectifs de quartier, des partis de la gauche radicale appellent à une marche de la justice et de la dignité. Pour eux, il s'agit de dénoncer les discriminations dont une partie de la population française continue de souffrir en raison de sa couleur de peau ou de sa religion. Avec Sandrine et Toa Andeg, Interception s'intéresse ce matin à un mouvement encore peu connu, embryonnaire en France, c'est l'afroféminisme. Il prend comme modèle le Black Feminism, initié aux États-Unis dans les années 70, et dont Angela Davis a été l'une des figures de proue. Leur action part d'un constat. En France, aujourd'hui, certaines souffrent d'une violence à deux étages, en quelque sorte. Celle liée à leur condition de femme et celle liée à la couleur de leur peau. Conséquence, ces militantes prônent des actions pour les femmes noires et exclusivement par des femmes noires. C'est ce qu'elles appellent la non-mixité. Femmes à fleur de peau, c'est un reportage de Sandrine et Toa Andeg.
Interception, le magazine de la rédaction.
Que nouveau ruisselant de lumière, dont l'éclat des strass et le froissement des plumes, des déesses provocantes et des sirènes sans écailles, allument une curieuse flamme dans le regard des messieurs solitaires. La revue à grand spectacle triomphe lorsqu'en 1925, la bombe Joséphine Baker explose au théâtre des Champs-Élysées qui affiche la revue nègre.
Les gens, ils sont racistes, mais nous, on n'aime pas ça.
C'est magnifique, ce nom-là. C'est magnifique. 53 ans que je suis là et 53 ans qu'on dit ben, on va au bal nègre.
Madame, les premiers concernés sont là et pour eux, c'est, ça les stigmatise, ça les discrimine.
Bah non, mais c'est beau comme tout. On a tout le temps appelé ça comme ça. On va au bal nègre.
Oui, mais là, aujourd'hui, ce que veut reprendre le propriétaire, c'est ce qui se passait dans les années 1920. Dans les années 1920, il y avait la colonisation. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, il faut passer à autre chose. On est dans le présent, on n'est plus dans le passé. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. C'est notre génération. On en a marre de ça. On ne veut plus être assimilé à ça. On ne veut pas être les nègres dansants. On ne veut pas tout ça. On ne veut plus. Mais nous, on est là aussi. C'est notre histoire, en fait.
On venait dépenser notre argent ici.
Oui, mais vous, vous, pas nous. Ce n'est pas des Noirs qui venaient dépenser leur argent là. Les Noirs ici, ils venaient travailler, ils venaient essayer de gagner quelque chose. Vous, vous venez voilà, ils venaient divertir les Blancs.
Un nègre, c'est l'esclave. C'est celui qui est en dessous du Blanc. Je voudrais juste vous demander si vous vous sentez un peu concerné par cette mobilisation et si vous vous dites tout d'un coup que vous allez réfléchir à ce mot et à l'usage du mot. Vous voyez ?
Non, moi, ça me gênait pas. Moi, je l'ai tout le temps vu ici, moi. Je venais ici, on venait manger, on venait danser, on va au bal nègre. Voilà. C'est tout. On n'a pas pensé dire du mal. C'est différent. Vous avez toujours vécu avec des étrangers. Nous, à l'école, on n'avait pas d'étrangers. On était que des Français, parce que moi, j'ai 76 ans. On n'a pas vécu comme vous vivez maintenant.
Un dimanche après-midi pluvieux dans le 15e arrondissement de Paris. À l'appel de militants antiracistes et d'afroféministes, plusieurs dizaines de personnes viennent manifester devant le rideau de fer baissé d'un cabaret baptisé le Bal Nègre. Le concepteur des lieux nostalgiques veut réhabiliter les années folles. L'enseigne qui doit rouvrir le 21 mars provoque un tollé sur les réseaux sociaux. Une pétition ayant recueilli plus de 6000 signatures circule.
Il faut leur dire qu'on a entendu que le mot a été passé.
C'est un mot qui blesse et qui est insultant. Et je le précise, dans la bouche d'une personne blanche, il est insultant, dénigrant. C'est un terme qui a été utilisé pour nier l'humanité des Noirs. Et si aujourd'hui des Noirs se le réapproprient, force à eux. Mais en aucun cas, les Blancs n'ont le droit de l'utiliser. Ils ont perdu le droit de dire le mot nègre, d'exploiter la culture noire sous cette appellation. Et je pense que ce qui me choque aussi, c'est un peu la romantisation de cette période. Le bon temps des colonies. On y retourne. Non, on n'y retourne pas. On ne l'acceptera pas. Nous ne serons pas complices.
La mobilisation a fini par payer, la salle ouvrira bien, mais sous un autre nom.
En fait, Laura, vous passez votre vie devant cet ordinateur.
Le plus clair de mon temps, oui. Ou alors je lis, ou alors je suis activement sur les réseaux sociaux en train de scanner tous les derniers articles ou derniers propos qu'il y a eu racistes, sexistes ou autres en France.
Laurane Safou, 24 ans, alias Mrs. Roots, est une blogueuse afroféministe. Sur Internet, elle traque les dérapages en tout genre.
Il y a vraiment une vigilance particulière sur Internet.
En France, il y a cette manière de dire que le racisme, c'est forcément une question d'ignorance. Les personnes ne savent pas qu'elles sont racistes, ou du moins, elles ne savent pas ce qu'elles font quand elles ont des propos racistes. Ça peut être aussi des articles qui sont partagés.
Est-ce que c'est dans les journaux, dans les magazines français ?
Oui, dans les magazines français. Bah, ça peut être des insultes racistes, ça peut être voilà, le bal nègre hier, c'est des choses comme ça.
Est-ce que cette masse critique sur Twitter, composée notamment d'afro-féministes, a pu, à un moment donné, dans sa mobilisation, amener un magazine ou un journal à retirer une publication?
Oui, tout à fait. Alors, j'essaie de retrouver. C'était Le Parisien qui avait titré quelque chose sur Rihanna en disant « la panthère Rihanna » ou quelque chose comme ça. Cette espèce d'exotisation de l'artiste. Donc, je crois qu'on en avait parlé toute la matinée. Et je crois que 2 heures plus tard, soit le titre avait été changé, soit on avait supprimé l'article. Ça arrive de plus en plus, en fait. Je pense que les community managers font plus attention qu'avant, en fait.
Font plus attention à quoi ? Au vocabulaire ?
Au vocabulaire, et aussi, quand il y a un tollé, il y a un tollé. Non seulement il y aura un tollé, mais c'est pas possible d'éviter, en fait, le problème.
Qu'est-ce que ça montre, finalement ?
Je pense que ça montre surtout que les gens ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent d'amplifier nos voix. Et surtout, ça nous permet aussi un effet de groupe. Je sais qu'il y a des personnes qui me demandent de relayer des choses parce qu'ils savent que va y avoir un effet avalanche. Et cet effet avalanche-là, on l'impose et on montre en fait que tout n'est plus tolérable en fait. On peut pas nous ignorer. Ça, je pense que c'est vraiment la grosse fracture avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut plus dire je ne savais pas. Et j'ai plus de 200 articles maintenant écrits, rédigés, publiés. Et le dernier sur lequel je travaille actuellement, c'est sur la perception de la sexualité des femmes noires. Donc ça s'appelle « Ma panthère noire, sexualité stéréotypée des femmes noires en Occident ». C'est notamment un sujet que je vais présenter bientôt à une conférence à Sciences Po. Alors j'essaie de juste retrouver le tweet. Voilà, donc j'avais demandé « Est-ce que les filles afro de Mattel, vous pouvez me dire les phrases racistes qu'on vous a sorties dans le cadre intime ?» Par exemple, « J'ai jamais essayé de noir de ma vie ». Alors, j'essaie de prendre quelques extraits. Il y a une femme qui a entendu « Jouis dans ta langue, s'il te plaît ». On va pas se mentir, vous les blacks, vous êtes des bêtes au lit, en mode sauvage comme des lionnes. Tu sens bon, toi. D'habitude, les femmes noires sentent très fort. J'ai un fantasme où je pourrais faire du dirty talk avec une noire et la traiter de pute et d'esclave. Ça, c'est une femme qui raconte. J'ai refusé ses avances et le type m'a dit « Personne ne veut de vous, tu ne peux pas te permettre d'avoir des exigences ». Voilà, je me suis retrouvée avec plus de 200 réponses et des choses vraiment assez blessantes où des femmes expliquaient qu'elles avaient honte même de le raconter. Il y a un transfert de la honte. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui disaient « J'ai honte de raconter ça parce que j'ai permis ça, j'ai permis qu'on me le dise et j'ai pas su comment répondre ». Donc oui, avec mon blog, ça m'arrive de recevoir des messages de personnes qui me disent « Ben voilà, je suis dans le Nord, je suis la seule fille noire de soit de ma classe ou soit pas de ma ville, mais près, limite en fait. » Et je me raccroche à tes textes parce que je savais même pas que ça existait. Je pensais être une exception.
Bon, allez, très bien, arrivé à Clamart. Donc là, on cherche le 7 rue Hébert. Bon, ça devrait pas être très loin.
Hein. Je pense que c'est la prochaine à droite, en fait. 7 rue Hébert ?
Je pense.
Rue Hébert. On est ici parce que Jeanne et Paulette Nardal avaient un salon littéraire ici. C'était tous les dimanches qu'elles ont réuni les intellectuels, artistes, militants pour la cause noire, mais pas que. Parce que même si elles ont été, elles ont jeté les bases de ce qui a pu donner plus tard la négritude, elles avaient des préoccupations qui étaient, d'après nous, éminemment afroféministes.
Qui venait ici rencontrer les sœurs Nardal?
Aimé Césaire, Senghor.
Des artistes, des intellectuels, des militants pour les droits des Noirs, mais qui venaient autant de la Caraïbe, qui venaient du continent africain, et aussi il y a cette influence qu'ils pouvaient avoir du Harlem Renaissance, enfin du mouvement de la Renaissance de Harlem, et c'était aussi un lieu où il y a eu ces échanges-là entre un espace du coup nord-américain et états-unien et plus européen, et en même temps pour mettre en lien toutes ces diasporas-là. Sans les sœurs Nardal, il n'y aurait pas eu la négritude, en fait. Ici, il n'y a pas de plaque. Il n'y a pas de plaque. Ça ne fait pas partie de l'espace public, en fait. Voilà. C'est quelque chose de niche. Ça n'intéresse pas tout le monde. Et ça, c'est très français, de ce que je connais. On n'a pas forcément envie de reconnaître la nécessité d'un lieu comme ça. Il y a beaucoup d'utilisation de l'histoire afro-états-unienne pour camoufler l'histoire franco-française, ce territoire français. Du coup, c'est intéressant de voir que je pense qu'on a plus de stations de tram qui s'appellent Rosa Parks que Paulette Nardal, en fait. Alors, je m'appelle Alma, j'ai 29 ans et je suis militante afroféministe. Je suis afrodescendante, j'aime beaucoup le terme afropéenne. Je précise que je suis métisse, que j'ai une mère noire et un père blanc.
Alors, je m'appelle Sine, j'ai 27 ans, je suis chanteuse, et musicienne, photographe et militante afroféministe au sein de Moissy. J'ai grandi en Ouganda, je suis née en Ouganda et ensuite j'ai vécu en Suisse.
Est-ce que vous pouvez définir ce courant, ces mouvements afroféministes ?
Alors, je dirais que l'afroféminisme, c'est un mouvement d'émancipation et de libération qui met au centre de ses préoccupations la condition et les conditions des femmes afrodescendantes. On s'inscrit dans une histoire depuis plusieurs territoires comme l'Amérique du Nord, la Caraïbe, le continent africain également, où il y a une sorte de renouveau des féminismes noirs, à mon avis, partout.
Comment vous définiriez-vous l'afroféminisme, Sine ?
Je pense que c'est les femmes noires qui prennent en main leur propre émancipation, qui affirment qu'elles existent. Je pense que c'est un mouvement qui est né du fait que les femmes noires en ont eu marre, en fait, que la société les ignore. Et elles se sont coordonnées pour, en fait, dire, bah si, en fait, on est là, on existe, on va pas partir, on fait partie de cette société et il est temps que vous le reconnaissiez. Et même si vous le reconnaissez pas, bah on va vous faire le reconnaître, on va vous faire admettre que si, les femmes noires sont importantes au même titre que les personnes dominantes, au même titre qu'un homme blanc, les femmes noires sont extrêmement importantes.
Quelles sont les remarques, les questions qui reviennent le plus et qui vous heurtent le plus?
Moi, ça a longtemps été « Tu viens d'où ?» Parce que je suis française et camerounaise. Je suis pas de nationalité camerounaise, mais on m'a toujours demandé d'où je venais. En fait, ce qui fait notre particularité, ce qui fait qu'on appartient à cette minorité, est ouvert au débat public, en fait. Donc, on se retrouve à avoir des gens qui, à côté de nous, parlent de nos cheveux, comme si on n'était pas là, parlent de notre couleur de peau, comme si on n'était pas là. Et en fait, j'ai mis du temps avant de me rendre compte que mes amis blanches, ça leur arrivait pas. On leur demandait pas ça.
Pourquoi l'afroféminisme en 2017 et d'actualité est nécessaire ?
Parce qu'on a beau être en France, on a beau être dans le pays des droits de l'homme et qu'il suffit qu'on ait une femme noire politique qui commence à prendre du galon et tout de suite elle est insultée, traitée de guenon. Parce qu'on a une ministre des droits des femmes qui peut parler des nègres à la télé et pas tenir compte des différentes implications de ses propos, parce que pour un milliard de raisons, en fait. Il y a aussi un rapport sur le marché du travail en France, ce qu'il y a de quasiment plus discriminant au niveau du marché du travail. Il y a l'âge, mais il y a l'origine et le genre. Donc en fait, si on est une femme afrodescendante de plus de 50 ans, comme par exemple c'est le cas de ma mère, si elle était au chômage aujourd'hui, elle a aucune chance. C'est pas qu'elle a un peu de chance, elle a aucune chance de trouver un travail. Quand je vais au McDo, quand je prends les transports en commun, quand je vais dans les parcs à la sortie des écoles, je vois que des nounous noirs, que des agentes noires. Systématiquement, j'ai fait mon collège à Levallois-Perret. Faut voir les parcs à Levallois-Perret à la sortie, quoi. C'est que des têtes blondes avec des nounous noirs, en fait. Oui, il y a clairement une sectorisation et la division du travail, elle est genrée et elle est racialisée. Plus on grimpe dans les échelons, plus ça se masculinise. Ça se voit au niveau de l'école où il y a beaucoup plus d'institutrices que d'instituteurs. Il y a beaucoup plus d'infirmières et d'aides-soignantes que d'aides-soignants. Par contre, dès qu'on commence à gravir les échelons, qu'on passe professeur, qu'on passe le CAPES, qu'on augmente un petit peu dans les grades, entre guillemets, bah, ça se masculinise, ça se blanchit. Et c'est pareil au niveau des études. Et les gens disent, mais non, quand même, il y a quand même de la visibilité. Je dis, vas-y, cite-moi 10 femmes noires célèbres qui sont pas chanteuses et qui sont pas humoristes ou qui sont pas. Et en fait, tout d'un coup, on a plus de noms. On sait pas. On va penser à Christiane Taubira, on va penser peut-être à Souria Bonali, je sais pas. Il va y avoir à chaque fois, c'est un îlot, c'est l'excuse qu'on avait souvent dit, même aux États-Unis, en disant mais Obama, il y en a un président noir, donc il n'y a plus de racisme.
Enfin, il se peut qu'il y ait des collectifs qui veulent marcher en non-mixité. Vous respectez cette non-mixité-là, et si vous ne respectez pas cette non-mixité, eh bien on viendra vous voir pour que vous la respectiez.
On est dans la manif alternative du 8 mars, qui est le jour international pour les droits des femmes.
Pourquoi un 8 mars en parallèle ?
Un 8 mars en parallèle parce qu'il serait temps que nous, les minorisés, on soit incluses dans un féminisme qui se dit universel mais qui est loin de l'être. L'exemple du port de hijab en France, le voile. Bon, c'est quand même le seul pays occidental qui interdit le port de hijab dans les espaces publics depuis 2004. Donc ça fait presque 15 ans, ce qui est quand même hallucinant. Par essence même, c'est une loi antiféministe puisque c'est une loi qui impose à des femmes ce qu'elles doivent porter ou non. Donc on est vraiment dans l'essence de l'antiféminisme, mais c'est une loi qui se dit féministe parce qu'elle se veut être dans l'esprit de sauver les femmes victimes de violences patriarcales et qui n'ont pas le choix de porter le voile, sachant que dans cette commission, qui s'appelait la commission Stasi en 2004, il n'y a pas une seule femme voilée qui a été interrogée. C'est quand même super problématique. Donc ça, c'est un féminisme avec lequel on n'est pas d'accord et contre lequel on se bat même carrément parce qu'on n'accepte même pas qu'il puisse se réclamer d'être féministe alors qu'il est profondément antiféministe. Et du coup, nous, on est dans un féminisme vraiment inclusif où la base, c'est le choix des femmes de faire ce qu'elles veulent.
Nous sommes au centre FGO Barbara,
voilà, à la Goutte d'Or,
donc dans le nord de Paris, en compagnie de Sandra Sainte-Rose Fanchine, chorégraphe, qui est en train de préparer son nouveau spectacle. Et qu'est-ce qu'il montre, qu'est-ce qu'il raconte ?
Il s'appelle 30 nuances de noir et il raconte la solidarité entre femmes noires, le fait de se sentir forte et belle en étant à plusieurs, et il raconte aussi comment on est pluriel, on ne se définit pas à travers les modèles qui sont véhiculés sur nous. C'est une parade, nous sommes 8 musiciennes et 6 danseuses, et le but c'est d'aller vers une formation au minimum à 30 et d'être tout le temps en train d'avancer. Je m'inspire des marching bands de la Nouvelle-Orléans, parce qu'en fait l'histoire du jazz vient de la Nouvelle-Orléans, et en fait la forme fanfare est un mixage entre les danses d'Afrique de l'Ouest et les marches militaires anglaises.
7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Levez les bras. 7 et 8 et 1 2 3 4. Tour plein.
Je m'appelle Annie, j'ai 37 ans bientôt, et j'habite Ivry.
Je m'appelle Licia, j'ai 28 ans et j'habite à Paris.
Je m'appelle Christelle, j'ai 26 ans et j'habite à Montreuil.
Je m'appelle Cine, j'ai 27 ans et j'habite à Paris.
Lesquelles d'entre vous se disent afroféministes, tout court ?
Toutes, toutes. Moi, j'estime que l'action, elle se fait au quotidien. Enfin, dans, voilà, moi, dans ma vie de mère, de famille, de couple hétéro, je suis militante dans la vie avec mes parents qui ne sont pas de la même génération que moi, qui n'ont pas forcément les mêmes idées politiques que moi. C'est du militantisme. Déjà, parler à sa communauté, c'est militer. Et en fait, c'est marrant, moi, je le vois aussi en termes générationnels. Moi, à 22, 23 ans, 25 ans, je ne savais pas que ça existait, quoi. Enfin, moi, j'avais... côtoyer à peine des copines, même blanches, qui se disaient féministes. Elles se disaient féministes dans un truc très un peu on enfonce des portes ouvertes. Enfin, bon, qui moi, je me sentais pas concernée. L'égalité des salaires, moi j'étais juste dans la question de déjà donner moi un travail, après on parlera de salaire, tu vois. Mais elles, elles étaient déjà dans ces trucs-là. Et je me disais, bon, bah non, en fait, je suis pas féministe, quoi. Et là, de voir qu'il y a des jeunes de genre 16, 20 ans qui viennent, qui nous suivent dans les manifs et tout, et qui viennent nous poser des questions, je me dis, putain, déjà en termes générationnels, ben c'est cool. Bah, elles sont... Les réseaux sociaux aident beaucoup à ça. Je pense que ça a généré beaucoup cette politisation, en fait. Et c'est super, parce que du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un espèce de gap, là, tu vois, et qui a été franchi, et là, on est dans autre chose, quoi.
L'afroféminisme, c'est un peu l'outil intellectuel qu'on a trouvé pour se définir politiquement et pour prendre l'espace politiquement et pour réagir et pour exister, en fait, à travers de ça et se réapproprier nous-mêmes, quoi. C'est vraiment nécessité, évidence, pour moi.
Arrêter d'essayer de coller à un modèle que la société veut ou essayer de passer pour la bonne personne, etc. Accepter qui je suis, toutes mes identités qui vont avec. Déjà, je suis une femme, je suis métisse afrodescendante, je suis lesbienne. Donc déjà, rien que ça, ça fait déjà plusieurs oppressions que je vis au quotidien depuis toute mon enfance. Je suis assez androgyne physiquement, donc ça rajoute aussi une oppression des personnes qui voient les choses de manière très binaire et très genrée, voilà.
La précarité aussi.
Pour moi, l'afroféminisme, c'est de la résistance.
Moi, je prends juste l'argument de dire, s'il n'y avait pas eu le féminisme des années 60, des femmes blanches, plutôt, on va dire, bourgeoises, eh ben, il n'y avait pas les hommes dans leur lutte, en fait. Elles étaient entre elles. Les LGBT dans leur lutte, ils sont entre eux, en fait. Ils n'invitent pas des hétéros pour venir leur dire, genre, je pense que tu devrais lutter comme ça.
Pour moi, le réflexe qui est presque épidermique des blancs de dire, ouais, vous faites du communautarisme. Au fait de la victimisation, pour moi, c'est parce que typiquement, ils n'ont pas la main sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de s'auto-organiser dans une non-mixité qui est putain de nécessaire pour avancer, parce que nous, c'est comme ça qu'on se donne de la force, parce qu'en fait, dans notre non-mixité, la non-mixité, ça nous permet de pas s'expliquer tout le temps, de pas s'excuser tout le temps, de pas se justifier tout le temps, et d'être juste dans une base, un postulat où on est genre tout d'accord en fait. Et à partir de là, en fait, on se construit. Mais les Joabours là, dans le 16e, qui préfèrent payer des amendes indescriptible plutôt que d'avoir des logements sociaux parce qu'ils ont envie de rester entre eux, mais c'est la définition même du communautarisme.
Il y a beaucoup de ressources sur Internet, des blogs, des pages, des profils, des échanges, mais il y a aussi des actions qui se font, notamment au sein de collectifs. Collectif Les Possibles à Rennes, il y a les Rosa, je crois, à Marseille, peut-être ça vous dit quelque chose. Donc voilà, vous êtes membre de ce collectif, moi-ci, Cine et Alma. Qu'est-ce que c'est, moi-ci ? Qu'est-ce que vous y faites ?
Alors, moi-ci a été fondée par Sharon, à l'origine, qui est une femme congolaise qui voulait créer un espace, justement, d'échange entre des femmes afrodescendantes.
On met à disposition des espaces dans lesquels les femmes noires peuvent venir s'exprimer, parler sur différents thèmes. On appelle ça des cafés afroféministes. Et c'est des espaces en non-mixité de genre et de race.
La non-mixité, le mot est lâché, il a fait couler beaucoup d'encre.
Beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'encre. On n'est plus dans cette politique de « touche pas à mon pote ». Enfin, c'est moi qui vais défendre mon ami parce que tu lui as fait du mal. Et moi, en tant que personne qu'on écoute, ben voilà, je vais défendre mon ami. Ben non, on en a eu marre de ça. On en a eu marre qu'on s'approprie nos luttes et notre parole. Et on a commencé à vouloir parler pour nous-mêmes. Donc, la non-mixité est vraiment, vraiment très, très, très essentiel à la lutte afroféministe, en tout cas à la lutte afroféministe de Moissy, on y tient.
Pourquoi ne pas privilégier la convergence des luttes? Pourquoi ne pas lutter avec toutes les femmes, puisque finalement, l'objectif final, c'est la fin des inégalités pour les femmes?
Dans les espaces féministes, il y avait le problème du racisme qu'on ne reconnaissait pas. Parce que, en fait, oui, on est toutes des femmes et donc on subit les mêmes oppressions. Mais c'est quelque chose qui est complètement faux. Donc il y a la violence, en fait, du racisme des espaces féministes blancs. Et il y a aussi, quand on veut s'inscrire en tant que femme noire dans la lutte antiraciste, pour les personnes qui sont passées par ce parcours-là, il y a aussi le sexisme qu'on subit dans ces milieux-là. Donc, en fait, la convergence des luttes. Non. Enfin, on a très bien vu par nos propres expériences que c'est juste pas concevable, en fait.
Est-ce que le syndicalisme, c'est pas un entre-soi? Des gens qui se réunissent autour de leurs conditions d'existence, leurs conditions d'ouvriers, est-ce que c'est pas de l'entre-soi? Est-ce qu'une soirée de gala, c'est pas de l'entre-soi? Je pense qu'au final, il y a un entre-soi qu'on voit et un entre-soi qu'on voit pas. La différence qu'il y a, c'est que le nôtre, il est vachement difficile à construire. Il est très difficile à construire parce qu'on est tout de suite pointé du doigt. Et on doit se justifier, on a du mal à avoir accès à des espaces parce qu'on n'est pas aussi légitime, même si on se forme en tant qu'association et qu'on arrive en disant « bah voilà, moi je m'intéresse plutôt à ci, plutôt à ça », bah on n'est pas vu de la même manière. En fait, on n'aurait pas à créer nos propres espaces si on avait notre place dans les autres espaces. Que ce soit socialiste, que ce soit syndicaliste, même féministe, c'est pas une volonté de se séparer en fait, c'est qu'on a été mis à part. Donc du coup, on a dit « ok ». Vous nous mettez à part, mais on va tirer le mieux de ce qu'il y a. Et en plus, on trouve des avantages à être à part dans la non-mixité. My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again.
They call me
my name. Amandine Gay est afroféministe, chercheuse en sociologie, comédienne. Elle a 32 ans et s'est expatriée au Canada. Grâce à un financement participatif, elle a réalisé son premier film, Ouvrir la voie. Ce documentaire poignant rassemble les témoignages de 24 femmes sur leur identité de femme noire en France et en Belgique.
Bonsoir, bonsoir. On a encore une petite quinzaine de places. Vous avez de la chance, on était complet. On aura ensuite éventuellement quelques places debout au bar, voilà. Et on va démarrer la projection dès que possible, dès qu'on arrive à faire rentrer tout le monde, dans une petite dizaine de minutes, je pense. Merci.
J'étais comédienne. Et ce qui était très difficile pour moi, c'était de me retrouver dans mon travail, on va dire alimentaire, à être en pleine contradiction avec tous mes idéaux politiques, puisque en fait, je ne passais que des auditions pour faire des personnages noirs hyper stéréotypés. Donc, droguée, prostituée, stripteaseuse, sans papier, personne qui va ou qui sort de prison. Et donc, ça devenait vraiment très difficile d'être dans un espèce de double discours permanent où, d'un côté, j'avais une vision politique très claire sur la France et puis je pouvais écrire des choses dans Slate ou sur mon blog. Et de l'autre, pour manger, je devais sans cesse passer des auditions où la fille s'appelait Fatoumata, Fata, Fati. En plus, ils changeaient même pas les prénoms. Donc voilà, j'avais beaucoup de mal. Et donc, je suis passée à l'écriture sur les conseils d'un ami directeur de casting. Et là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas influer sur la fiction non plus, puisqu'on me disait que mes personnages, quand je mettais des personnages racisés non caricaturaux, on me disait que ces filles-là n'existaient pas en France. C'est une phrase que j'ai littéralement entendue quand j'ai pitché une série où un des cinq personnages, donc c'était cinq femmes à Paris qui se confrontaient au magazine féminin, et un des personnages était une lesbienne noire sommelière. systématiquement, on me disait « c'est super, mais t'as trop regardé de séries américaines, ces filles-là n'existent pas en France ». Et moi, je m'identifie comme pansexuelle, j'ai été manager de bar à vin, ce personnage, c'était une extension de moi. Et donc, me retrouver à avoir des conversations avec des hommes blancs qui me disaient que j'existais pas pour délégitimer mon scénario, je me disais « bon, bah alors, c'est même pas la peine d'essayer par la fiction, faut d'abord passer par le documentaire, je vais montrer plein de filles noires qui existent, hors des clichés, des stéréotypes habituels. Et puis comme ça, cette partie de la conversation sera terminée. On va pouvoir passer à la fiction et à changer les imaginaires, vraiment. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose quand j'ai eu autant de réponses pour les entretiens. Et puis en fait, je sais pas, mais dans les 15 premières minutes de mon message sur Twitter, j'ai reçu 20 mails. Et donc du coup, je me suis dit, ah oui, j'avais cette intuition qu'il y avait les femmes noires qui se retrouvaient pas représentées et qui allaient sûrement avoir envie de parler. Mais en toute honnêteté, même dès le départ du projet, je pensais pas qu'il y en avait autant qui allaient avoir envie de parler. Et puis qui étaient aussi pointues sur leur expérience. C'est vrai que moi, je viens justement des milieux universitaires et j'ai toujours détesté l'approche qui est très française mais qui existe en sens social un peu partout en Occident, du regard surplombant. C'est-à-dire que ça va toujours être des personnes blanches, des personnes de classe moyenne supérieure qui vont aller interroger, je sais pas moi, les toxicomanes, les femmes racisées, tout ça. Et puis... même quand on va voir des personnes racisées s'exprimer sur leurs conditions, elles sont dans le témoignage, et puis il y a une personne blanche qui vient expliquer ce qu'elles ont dit, qui vient théoriser autour de leur témoignage. Et ça, moi, ça m'énervait. Je me disais, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont tout à fait capables d'exprimer ce qui leur arrive. Mais c'est vrai que même là, j'ai été surprise aussi. Je me suis retrouvée face à des personnes qui avaient vraiment une vision très pointue de ce qui leur arrivait. Et puis moi, j'ai été tout au long des entretiens, je me suis dit, plus on avançait, et puis je me disais, mon Dieu, mais ça va être génial. Donc je pense vraiment que il y avait un vide. Il y a une partie de la population qui ne se retrouve pas à l'écran, qui n'attend qu'une chose, c'est des films comme celui-là, et qui vient. Et comme justement, c'est vraiment organisé de façon à ce que ce soit une expérience universelle, il n'y a pas que les Noirs qui viennent. Moi, j'ai fait des avant-premières à Nantes, c'était plein. Et c'était plein à 90% blanc.
C'est comme l'histoire du mot noir, quoi. Beaucoup de personnes vont te dire gens de couleur, black, etc., parce que c'est mal de dire le mot noir. Ce n'est pas mal de dire le mot noir, c'est juste qu'on a rendu tabou et on place le racisme là où il n'est pas.
C'est une stratégie d'évitement et je trouve que dans un pays comme la France, qui est tellement attaché à sa langue, on a du mal à nommer ce qui est perçu comme une différence, pas seulement la différence, mais la différence qui peut être problématique.
Si tu me dis black, je dis noir, tu veux dire noir ? Oui, oui, je suis noir. En France, moi je t'appelle pas white, donc m'appelle pas black. Quoi.
On pourrait très bien dire oui, les white...
En gros, tout le monde dit black facilement et on a énormément de mal à dire noir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Est-ce que vous avez des exemples de ces violences, agressions, grandes ou petites, subies au quotidien quand on est une femme noire en France, très concrètement ?
Les micro-agressions, c'est ce qui est le plus dur à gérer. Parce que par exemple, se faire toucher les cheveux au bureau, au milieu d'un open space, soit on dit rien, mais on passe sa journée... à ruminer en se disant « je me suis pas défendue, j'ai rien dit, j'aurais dû dire quelque chose ». Soit on dit quelque chose et là on devient la fille noire chiante qui fait sa militante, qui casse l'ambiance, qui a pas le sens de l'humour. Et donc dans les deux cas, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, on a perdu parce qu'on a été complètement mis sous les feux de la rampe au milieu du bureau parce qu'on était la noire. Je veux dire, il y en a à l'appel et puis après il y a les plus violentes. Moi, je me suis quand même fait contrôler, fouille, palper à Châtelet-Les-Halles en pleine heure de pointe sans raison, avec les mains contre le mur, les jambes écartées. Voilà, ça moi c'est un des moments les plus violents de ma vie et puis ou les plus honteux. Il y a aussi ça, c'est que bon déjà c'est un peu agaçant qu'on me dise tu parles bien français tout ça, mais me faire fouiller sans raison dans ma tête, je me dis, et toutes ces personnes blanches qui passent et qui me voient arrêtée par la police, elles se disent qu'il y a une raison, parce que je suis noire. Et moi, j'ai honte. Donc je pense que c'est vraiment toutes ces anecdotes-là aussi qu'on a besoin de partager, puis qu'on partage en général entre nous, mais qu'on partage pas vis-à-vis du groupe majoritaire, justement, pour ne pas être mise dans cette posture où on va nous dire « tu te victimises, tu te plains, mais oui, mais tu as qu'à passer au-dessus, oh, mais c'était qu'un con ». Alors que pour nous, c'est quelque chose de quotidien et c'est la répétition qui le rend épuisant, quoi.
Est-ce que vous avez des exemples, justement, de cette confiscation de la parole dans la société française ?
Mais moi, je dirais que c'est plus justement cette idée qu'on est peu représenté par nous-mêmes. Moi, j'avais fait un test avec les filles, je leur avais demandé de me citer 5 comédiennes noires françaises connues. Bon, en dehors des filles qui travaillent dans le monde de l'audiovisuel, personne n'y est arrivé. C'est pas simplement de mettre des noirs, par exemple, dans les films, mais c'est qui sont les noirs scénaristes, qui sont les noirs producteurs. La confiscation de la parole, c'est qui sont les noirs professeurs d'université, directeurs d'université, médecins. les Noirs dans les rédactions de grands médias français. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est en fait comment est-ce qu'on disparaît. C'est pour ça que je dis aussi que moi, je travaille beaucoup sur la documentation, parce qu'en fait, on disparaît de l'histoire, parce que si on n'a pas réussi à écrire nos propres livres, réaliser nos propres films, ce n'est pas le groupe majoritaire qui va nous faire une place.
Before anything else, I'm a black woman.
Angela Davis.
And I dedicated my life to the struggle for the liberation of black people by enslaved and prison people. I am a communist because I'm convinced that the reason we have been forced to be
Quand je suis rentré des États-Unis, après avoir vécu pendant une bonne partie des années 90, j'étais très surpris de voir qu'en France, les questions familières aux Américains n'apparaissaient pas du tout dans le monde universitaire français.
Pape Ndiaye, historien, spécialiste des États-Unis et de la question noire.
Toutes les questions qu'on appelle les questions de race, je mets plutôt des guillemets à ce terme, parce qu'il n'y a pas de substrat biologique, bien entendu, on parle là des représentations imaginaires. Ces questions-là, en France, c'était des questions peu fréquentées et même suspectes. Tout ce qui se passe là en France est parfaitement normal, parfaitement prévisible au vu de ce qui s'est passé aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne plus récemment. Les femmes de couleur, les femmes noires de France théorisent et également socialisent par le biais associatif, par les réseaux sociaux, des préoccupations qui leur sont propres. Elles le font avec beaucoup de courage, parce que ce type de réflexion n'est pas encore encouragé et bien vu dans notre pays. Au fond, ce dont il est question avec ces associations, ça n'est pas je ne sais quelle volonté d'entre-soi. C'est plutôt une manière de prendre au mot la République en disant les grands principes de la République française, eh bien, nous souhaitons que ces principes-là ne tournent pas à vide. Autrement dit, ces associations ne sont pas en rupture, mais elles prennent au sérieux les principes républicains. Elles font état de torts et de méfaits. Elles sont centrées sur des difficultés qui, faute de voix collective, sont mal prises en compte dans l'espace public français.
Un des enjeux de cette lutte afroféministe, c'est la lutte en non-mixité. Ça a tout de suite été tourné en racisme anti-blanc.
L'histoire des mouvements minoritaires, elle est marquée par des débats à ce sujet. Est-ce qu'il faut admettre celles et ceux qui n'ont pas une expérience personnelle des torts et des méfaits contre lesquels on se bat? Et ça, c'est un débat dans les années 60 et 70 des organisations de femmes. Est-ce qu'il faut admettre des hommes? C'est un débat dans les organisations noires américaines. Est-ce qu'il faut admettre des non-noirs? Mais qui et où est la frontière entre noirs et non-noirs? C'est très compliqué. Donc ce genre de débat a lieu depuis toujours. Il ne faut pas s'en émouvoir outre mesure. Les mouvements minoritaires, en France et ailleurs, souffrent d'être minoritaires. La question des alliances, c'est une question qui se pose d'ores et déjà. Et puis aussi la question plus tactique. Est-ce qu'il ne faut pas aussi éviter de constituer des fronts d'adversaires trop multiples? Est-ce qu'il ne faut pas aussi ouvrir du côté de celles et ceux qui sont des alliés en quelque sorte naturels, plutôt que de s'en faire des adversaires?
J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré.
Les afroféministes se sont associées à deux initiatives distinctes qui ont fait polémique l'année dernière. Un atelier ouvert à tous qui s'est tenu à l'Université Paris 8, intitulé « Paroles non blanches ». Et puis à Reims, un camp d'été décolonial, décolonial comme décolonisé. Pour ces organisatrices, deux militantes, la lutte antiraciste doit être menée exclusivement par, avec et pour les personnes concernées.
Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, lever les paupières vers la lumière et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure où le nègre hisserait une bannière à ses propres couleurs.
Peu après, à l'Assemblée, le député Les Républicains Bernard Debré interpelle la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem.
Comment aller ailleurs, désormais libre, ouais, mais toujours inférieur.
Je suis très inquiet de constater la montée en puissance du racisme anti-blanc et de l'antisémitisme dans notre pays. Je n'en veux que pour preuve la récente tenue dans l'enceinte de l'Université Paris 8 de Paroles non blanches. Les organisateurs de cet événement ont, de plus, prévu d'organiser un camp d'été décolonial destiné aux personnes subissant à titre personnel le racisme d'État. Cette réunion est interdite aux Blancs. Il appartient à votre gouvernement de faire le nécessaire pour barrer la route de ces mouvements d'extrême gauche qui, tout autant que l'extrême droite que je combats, mettent notre démocratie en danger, prônant le désordre, le racisme et l'antisémitisme.
Que les choses soient claires, je condamne absolument la tenue de ces réunions comme celle du camp d'été que vous évoquez à l'instant. Parce que, au fond, ces initiatives sont inacceptables en ce que, bien loin de l'objectif qu'elles prétendent poursuivre,
s'il vous plaît,
elles
écoutez
confortent
la fin de la réponse.
Une vision racisée et raciste de la société qui n'est pas la nôtre. Voilà la réponse. Condamnation sans faille et rappel à nous tous, sur tous ces bancs, de la nécessité de promouvoir les valeurs de la République.
Je suis Fania Noël, j'ai 29 ans. Je suis une militante panafricaine, afroféministe, marxiste, qui s'inscrit dans l'antiracisme politique.
D'où est venue l'idée de faire ce camp décolonial ? Il y a une deuxième édition qui se prépare.
Il faut se rendre compte que dans un pays où on ne voit pas les couleurs, où semblerait-il la une est indivisible, que ce soit construit à la marge un discours qui est allé sur, par exemple, la lutte contre l'islamophobie, par exemple, même si les gens ne veulent pas entendre ce mot, la lutte contre la négrophobie, contre le racisme, les crimes policiers, les manifestations et les mobilisations extrêmement larges contre les violences policières, pour Adama Traoré, pour Théo, mais avant pour Ziad Ebouna, c'est aussi un exemple. Le buzz et le succès du camp d'été décolonial, ça aussi, ça dit quelque chose du combat qui se mène actuellement entre des visions différentes de l'antiracisme, une portée par les personnes concernées et qui veut s'attaquer au système, et une qui pense que c'est quelque chose d'individuel et qu'après on va changer le cœur des gens, et quand les gens ils seront gentils, tout le monde sera gentil, etc. Il y a plus de chances, et là je parle pour les personnes subissant le patriarcat racisé, il y a plus de chances qu'on arrive à nos objectifs avec un mouvement antiraciste autonome, fort et large, que avec un mouvement féministe large et fort.
Non, pas suffisamment. Moi, dis ton nom, tu vois, moi, Ida Weiss-Barnett, je ne parle pas.
Ces mouvements autonomes doivent gagner en visibilité pour Gerty Damburi, l'auteur et metteur en scène guadeloupéenne, a lutté contre le sexisme et le racisme dans les années 70 avec la coordination des femmes noires. Il en reste peu de traces aujourd'hui. Nous lui demandons ce qui, à ses yeux, a changé.
C'est une question dont je pense que tout le monde a déjà la réponse. Combien de femmes noires est-ce que vous voyez en politique ? Comment a été traitée une femme comme Christiane Taubira, parce qu'elle a une parole forte et directe ? Qu'est-ce que ça signifie que Christiane Taubira ait été l'ennemi numéro un à abattre de toute la droite française ? Comment se fait-il que Christiane Taubira ait été à ce point insultée et que son président de la République et son ministre, premier ministre, aient éprouvé le besoin de laisser s'écouler 3 semaines à 1 mois avant d'avoir la moindre réaction? Est-ce que ça n'est pas suffisamment parlant? Aujourd'hui, ce questionnement-là va traverser l'ensemble de la société. Et si aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à l'entendre, on sera bien obligé de l'entendre. Parce qu'elles vont poser ces questions-là, mais que leurs enfants qui vont naître ici continueront à poser ces questions. Et donc, cette société doit s'interroger sur ce qu'elle est aujourd'hui. La société française vit sur l'illusion qu'elle est une société ouverte. Mais quand on prononce le mot multiculturel, quand on le prononce vraiment, « Ah non, c'est pas possible, on n'est pas une société multiculturelle, on doit être une société française. » Et sa société française n'accepte pas le multiculturalisme, parce que pour elle, le multiculturalisme est directement lié au communautarisme et que donc le communautarisme, c'est américain. Et donc, en réalité, le système de pensée français, qui est un système d'autosatisfaction, de contentement de soi, n'arrive pas à se remettre en question. On peut sans arrêt parler des États-Unis et ne pas parler de ce qui se passe en France. Parce qu'en France, ça n'existe pas. parce que on s'aime, parce que tout le monde est français. Mais oui, vous êtes français. Alors on peut vous exclure et vous mettre dans des banlieues et dans des cages à lapins. On peut parler de vous en disant toujours les quartiers. Et on peut savoir que sa société est organisée comme ça et être tout à fait surpris que quelqu'un vous dise « Mais attention, regardez les strates, regardez l'organisation spatiale, toutes ces choses-là sont parlantes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles signifient ?» Ce n'est pas regardé. C'est parce que ce n'est pas regardé que ça peut demeurer. On se rend bien compte qu'il y a une tension avec des communautés, moi je veux bien utiliser ce terme, des communautés qui ne se sentent pas représentées, qui ne se sentent pas reconnues, qui ne se sentent pas visibilisées, et que ces tensions peuvent déboucher sur des moments de violence. Et si, en dehors des questions de trafic, de drogue qu'il peut y avoir, des policiers se font attaquer à gauche et à droite, c'est pas tout à fait coupé du fait que certaines parties de notre pays se sentent ailleurs. Si on est ailleurs, c'est une autre loi, on applique une autre loi. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à faire appliquer la même loi à tous si on ne commence pas par appliquer les mêmes droits à tous? On ne peut pas en avoir que des devoirs, il faut aussi qu'on ait des droits. C'est quand on a des droits et des devoirs ensemble que la société marche sur ses deux pieds.
Bon village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que.
C'était Femme à fleur de peau, un reportage de Sandrine Etoa Andeg. Prise de son Romain Lukiens et Fabien Gosset. Mixage Jean-Louis Deloncle. Anne Lureau a réalisé ce numéro d'interception avec l'aide de Stéphane Combe. Zora Bensmaili veille sur la page de notre émission sur Internet, une page sur laquelle vous pourrez bien sûr nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Nous vous souhaitons une très bonne journée, à la semaine prochaine.